Nous sommes de retour.
Pour jouer un mauvais tour.
Afin de préserver le monde de la dévastation.
Afin de rallier tous les peuples à notre nation.
Afin d'écraser l'amour et la vérité.
Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée.
Jesse.
James.
La Team Rocket, plus rapide que la lumière.
Rendez-vous tous où ce sera la guerre.
Oui, la guerre.
Bonjour à tous, chers auditeurs, Quentin au microphone, et je vous le dis tout de suite, mes amis, non, nous n'écraserons ni l'amour, ni la vérité dans cette émission. Quel dommage pour nos amis pessimistes, car nous nous contenterons aujourd'hui, non pas de considérations abstraites sur la Voie lactée, ni même d'optimisme, mais bien de politique monétaire, dans cette deuxième émission consacrée aux actions non conventionnelles des banques centrales. Chers auditeurs, rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Bienvenue dans Tina.
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Il fasse des choix
économiques, mais aussi un problème de mort.
Nous avions vu, mes amis, au cours de l'émission précédente, la raison d'être des politiques monétaires non conventionnelles comme une réponse face à l'extraordinaire crise que nous avons traversée. Cette crise a rendu d'ailleurs les outils traditionnels complètement inefficaces. Il a fallu donc tout réinventer. Et c'est pourquoi nous avons retracé leur mise en place progressive la dernière fois. Mais aujourd'hui, Lino approfondira ce sujet et se penchera pour vous sur l'efficacité et les dangers des politiques monétaires non conventionnelles. Quant à moi, je vous parlerai un peu plus du cas japonais, qui depuis 2 ans, pour sortir de la crise, a mis en place des mesures radicalement révolutionnaires. Et oui, aujourd'hui, transhistorien, on va parler des super-pouvoirs de Mario, ou de Janet Yellen, que j'ai d'ailleurs rebaptisé à l'occasion de cette émission, Janet Yellen. On est en France, on parle français. Bref, que vous soyez nippon, fan de Pokémon ou seulement de Mario, ne vous inquiétez pas, cette émission est faite pour vous.
Quentin, la BCE a prévu beaucoup, mais on peut douter de l'efficacité de ses politiques. Cela arrive tard, sans doute trop. Pourtant, Super Mario n'a pas arrêté de lâcher des petites piécettes. La croissance de la masse monétaire depuis la crise a été inédite. En temps normal, c'est-à-dire en période de croissance stable de la richesse, il y a une relation proche de l'identité entre la masse monétaire et le niveau des prix. La fameuse phrase de Milton Friedman, « L'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire », illustre cette situation normale. Et aujourd'hui, on est très loin de cet état normal. C'est pour cela que la Banque centrale n'a pas à s'inquiéter de l'inflation et peut injecter des liquidités dans l'économie, comme le dernier plan de rachat annoncé par Mario Draghi. Il s'agit d'ancrer des anticipations inflationnistes, c'est-à-dire de faire en sorte que les agents pensent que l'économie va repartir afin qu'ils osent investir.
Mais après tout, est-ce le rôle de la Banque centrale de relancer l'économie ?
Normalement, cela devrait être à l'État de le faire, aidé par la Banque centrale, qui fait en sorte de baisser les taux pour pas que les États s'endettent trop cher. C'est ce qu'on appelle du policy mix. Or, en parlant d'État, on se retrouve face à la difficulté de transposer les cas anglais, américains et japonais aux cas européens. L'Espagne ou la Grèce auraient certainement besoin d'une déflation salariale pour regagner en compétitivité. La déflation salariale, c'est faire baisser les coûts du travail pour gagner en compétitivité. Mais ce n'est pas le cas de l'Allemagne, au contraire. Il faudrait que son salaire réel s'élève. Les États européens étaient dans des situations déjà très différentes avant la crise, quoique l'on ne s'en rendait pas compte. Et Et le choc de la crise a été asymétrique et a révélé les inégalités antérieures et les a amplifiées. L'Allemagne a beaucoup moins souffert que les pays du Sud. Elle s'est tout de suite rétablie, alors que les autres se sont enfoncés dans une crise très grave de dette souveraine. Si l'euro était ce qu'on appelle une zone monétaire optimale dans la théorie économique, il existerait des mécanismes de redistribution qui permettraient de lisser les chocs. Ceux qui ne perdent pas soutiennent les perdants. C'est ce qui se passe à l'échelle nationale. Les perdants, qui sont au chômage, sont indemnisés via les allocations chômage, par exemple, qui sont financées par ceux qui n'ont pas été victimes de la crise et conservent leur emploi. C'est ce qui devrait se passer à l'échelle européenne. Et c'est assez clair avec la situation grecque, ces mécanismes de redistribution n'existent pas. Il faut donc passer par d'autres canaux.
Oui, la politique monétaire non conventionnelle devrait effectuer ce rôle de distribution.
Oui, et c'est sans doute ce qui va se passer. Ce n'est pas annoncé, c'est totalement nouveau, donc on est un peu dans la projection et l'anticipation. En effet, le cas européen diffère encore une fois du cas anglo-saxon. Rien n'empêche la Fed ou la Banque d'Angleterre de directement aller sur les marchés acheter de la dette. Quand elle fait cela, elle donne de l'argent aux acteurs qui possédaient la dette, qui vont chercher à le placer ailleurs. Comme la Banque centrale achète la dette peu risquée et ne la revend pas, elle neutralise le marché secondaire de la dette où normalement sont vendus ces titres et les acteurs disposent de liquidités. Aux États-Unis, il n'y a pas que les banques qui disposent alors de liquidités, mais aussi les grandes entreprises. Tous les acteurs présents sur le marché financier, il y a beaucoup plus d'acteurs non bancaires sur les marchés financiers. And easy to handle. It's spending that matters. Why is that such a scandal? Money sloshes through the pipes and the sluices. Revitalizing the economy's juices. It's just like an engine that's stalled and gone dark. To bring it to life, we need a quick spark. Spending's the lifeblood that gets the flow going. Where it goes doesn't matter. Just get spending flowing. You see slack in some sectors as a general glut. But some sectors are healthy, only some in a rut. So spending's not free, that's the heart of the matter. Too much is wasted as cronies get fatter. La raison pour laquelle le quantitative easing a fonctionné aux États-Unis ou en Angleterre, c'est parce que l'État n'a pas réduit les dépenses publiques au moment où ces politiques étaient implémentées, ou du moins l'État n'a pas fait une austérité à tout va comme on fait en Europe. Donc les agents anticipaient qu'il y avait des débouchés pour leurs investissements. L'Europe, à l'inverse, se distingue par son orthodoxie budgétaire et la volonté d'être systématiquement en équilibre budgétaire comme objectif. Même le FMI a retourné sa veste à ce sujet et ne cesse de dire à l'Europe que faire des réformes structurelles, c'est important, mais cela ne doit pas empêcher de faire un peu de relance budgétaire, quitte à creuser un peu le déficit dans cette période exceptionnelle. Il ne s'agit pas seulement de dépenser pour dépenser, comme on a pu le faire lors des années 2000, mais de cibler les investissements qui peuvent apporter de la croissance. En l'absence d'un policy mix, les efforts de la BCE risquent d'être vains. C'est le sens implicite de nombreuses déclarations de Mario Draghi qui demandent aux États, et en particulier à l'Allemagne, d'assumer leurs responsabilités.
À propos, il y a également le plan Juncker dans l'actualité, qui devrait permettre de lever 1300 milliards d'euros grâce aux marchés financiers et aux financements privés, et ce, dans le but de construire des infrastructures et de stimuler la demande, donc la consommation, et donc in fine la croissance.
Oui, 1300 milliards, c'est beaucoup. Mais du coup, cela se heurte à de nombreux freins. La situation européenne est très délicate. Déjà, on a des États très endettés qui, contrairement à de nombreux États endettés, ne peuvent monétariser la dette aisément. Monétariser la dette, c'est faire passer la dette des acteurs privés dans la monnaie. C'est ce que l'on compte faire avec en fait le quantitative easing. L'Allemagne s'oppose à ce que les dettes souveraines soient intégrées au bilan de la BCE. Elle argue d'un problème d'aléa moral, c'est-à-dire d'incitation à l'endettement. Puisqu'on va racheter les dettes des États, pourquoi ferait-il des efforts pour arrêter de s'endetter ?
Et oui, les États à qui on achète de la dette n'auraient pas d'incitation à réduire l'endettement, puisque toute leur offre trouve une demande, en l'occurrence émanant de la Banque centrale.
Et oui, et c'est un problème qui n'est pas trivial. Cette position n'est d'ailleurs pas sans fondement. Ça s'est passé par exemple en 2011 en Italie. Berlusconi a demandé de l'aide de la BCE en échange de réformes structurelles qu'il a promis. La BCE l'a aidé, puis le lendemain, il a dit « bon, on a de l'argent, on va pas faire de réformes structurelles ». Mais en même temps, l'heure est grave. Plus on tarde à agir, plus les dégâts sont importants. Ce sont bien sûr des dégâts sociaux. Pensez à l'Espagne, où le taux de chômage des jeunes est passé de 20% à 53%. Imaginez la misère sociale qui va avec, sans parler des problèmes grecs qui sont amplifiés. Des efforts seront bien sûr à faire, mais attendons d'aller peut-être un peu mieux. Les politiques non conventionnelles peuvent avoir de l'effet, mais pas toutes seules. Le meilleur moyen de sortir de cette situation de trappe à liquidité, c'est encore de donner des perspectives d'investissement rentables.
Enfin, cette politique monétaire a déjà montré certains effets, sur le taux de change par exemple, non ?
Oui, et en fait, c'est là une des raisons pour laquelle cette politique monétaire est bénéfique. Un taux de change euro-dollar qui se déprécie de 10%, donc si l'euro perd 10% par rapport au dollar, d'après les calculs de l'OFCE, le centre de recherche de Sciences Po, c'est un gain de compétitivité de 7%. C'est loin d'être négligeable. C'est bénéfique à moyen terme pour les pays qui ont une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire qui importent plus qu'ils n'importent, comme la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, entre autres. L'Allemagne, elle, peut se permettre un euro fort. Sa spécialisation internationale dans le haut de gamme fait qu'elle est moins dépendante des cours du taux de change. La politique monétaire européenne pousse, en fait, volontairement le taux de change avec le dollar à la baisse pour soulager les économies qui sont en déficit de la balance commerciale, pour les aider et faciliter les efforts structurels. C'est parce que les taux d'intérêt américains sont supérieurs aux taux européens et que les perspectives de croissance y sont également supérieures que les agents vont demander plus de dollars, autant aller là où ça va, ce qui explique l'appréciation du dollar. C'est quelque chose qui va en fait avoir effet à court ou moyen terme. Et certains observateurs pensent qu'à plus long terme, le principal effet de la politique de la Banque Centrale Européenne vise à préparer le chemin vers une restructuration des dettes souveraines. Une banque centrale, en fait, a un pouvoir de création monétaire absolu. C'est elle qui crée la monnaie. Elle peut accepter des pertes sur le long terme et les faire payer, par exemple, par de l'inflation à long, voire très long terme. Elle peut accepter des pertes violentes, par exemple, de l'ordre de 1 000 milliards et les répartir sur 15, 20, 30 ans. Elle a une durée de vie infinie. C'est ce qu'on appelle la monétarisation de la dette, puisque la Banque centrale peut créer autant de monnaie qu'elle veut et étaler les coûts de cette création monétaire. Elle peut toujours faire passer la dette dans le champ de la monnaie. Cela se paiera à long terme par de l'inflation, par exemple. Mais si c'est bien mené, le coût à un instant donné peut être très faible.
Mais si d'un coup de baguette magique, on peut effacer des milliards de dettes, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? There's no such thing as magic.
En fait, ce coup de baguette magique doit rester exceptionnel. Sinon, ça devient dangereux. Si vous laissez les États libres de toute responsabilité envers leurs dettes, vous croyez vraiment qu'ils vont se serrer la ceinture ? On touche à un problème en fait d'équité générationnelle. La dette se paye nécessairement de manière classique, on rembourse la dette, ou par l'inflation si on la monétarise. On peut utiliser la solution de la monétarisation dans certains cas exceptionnels, mais il faut que ces cas restent exceptionnels. Le non conventionnel, c'est comme un coup de morphine. Ça soulage, mais on risque de devenir accro.
C'est quelque chose que l'on voit bien dans le cas américain, par exemple. Janet Yellen, la gouverneure de la Banque Centrale Américaine, la Fed, essaye de sortir petit à petit de cette politique. Mais c'est très difficile sans déstabiliser les acteurs, car il y a des remous avant chaque conférence de presse de Janet Yellen. L'absence d'une théorie de la politique non conventionnelle explique ce flou de la sortie. La politique monétaire non conventionnelle est discrétionnaire, et donc il est difficile d'anticiper une sortie.
Quand on vient de parler de la Fed, de la Banque d'Angleterre un petit peu, de la BCE, et je sais qu'un sujet te tenait à cœur, c'est le Japon. On parlait d'improvisation et surtout de sortie de la déflation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la situation japonaise ?
Oui, tout à fait, Lino. Parlons alors sans tarder des Abenomics. Les problèmes au Japon n'ont pas attendu la crise pour émerger, et le pays est en difficulté depuis près de 20 ans. Tout a commencé par un triste jour de pluie de l'an de grâce 1990, avec l'explosion d'une bulle financière, suivie en 1991 par l'explosion d'une bulle immobilière qui, toutes deux réunies, ont plongé peu à peu le pays dans la déflation. Entre 1999 et 2012, on assiste dans le pays à une déflation constante mais faible, de l'ordre de 0,3% à peu près. Ce qui explique en partie l'énorme endettement du Japon, 225% du PIB, contre 160% du PIB en Grèce au plus fort de la crise.
Mais alors comment expliquer que la Grèce ait eu de telles difficultés à rembourser sa dette et pas le Japon ?
C'est une excellente question. En fait, au Japon, une très grande partie de la dette est détenue par des Japonais eux-mêmes, et qui n'ont pas forcément envie de se tirer une balle dans le pied, on les comprend, et ne réclament donc pas directement leurs créances à l'État. De plus, le Japon exporte beaucoup et a toujours de l'argent qui rentre de l'étranger pour alimenter son épargne. Toutefois, la situation est fragile et la crise a diminué les exportations, et le tremblement de terre de 2011 et Fukushima ont sérieusement entamé l'autonomie énergétique du pays, pesant ainsi dangereusement sur l'équilibre de la balance commerciale. Il faut donc agir. Et au plus vite, Shinzo Abe a donc décidé d'ébranler l'économie japonaise grâce à trois types de mesures que l'on appelle les trois flèches d'Abe. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Shinzo Abe, Shinzo Abe est le premier ministre du Japon, grand nationaliste qui n'aime pas trop les Chinois. La première flèche est tirée immédiatement et consiste en une politique monétaire ultra-expansionniste reposant, comme aux USA et en Europe, sur l'achat massif d'obligations de l'État japonais. On arrose ainsi le marché de monnaie afin de renverser la tendance et de créer de l'inflation qui soulage toujours un peu la dette. La seconde flèche, qui est indispensable pour que la première atteigne sa cible, consiste en une politique budgétaire vigoureuse. En un mot, l'État va dépenser beaucoup d'argent. En infrastructures, en équipements, mais aussi en mécanismes d'incitation pour relancer l'investissement privé.
Comment le Japon va pouvoir, avec ce supplément de dépenses, avoir une dette soutenable ?
C'est là tout l'enjeu de la troisième flèche d'Abe, la plus originale en fait, qui se nomme la flèche de croissance. Si la première flèche s'assure de couvrir la dette pour le court terme en la rendant moins chère et donc davantage soutenable, la troisième la rend viable sur le long terme. En effet, cette flèche a pour but de relancer la croissance, l'innovation et les exportations du Japon. Ainsi, en créant des richesses, le Japon pourra rembourser sa dette. Le plan est simple et semble génial.
Mais est-ce que ça marche vraiment pour relancer la croissance ?
Eh bien, c'est là qu'on ne sait pas trop. En effet, la flèche de croissance vise à faire sauter tous les barrages et les rentes existant dans le pays afin de relancer la croissance hypothétiquement. Tout d'abord, Shinzo Abe a massivement remis en marche le nucléaire, en dépit de Fukushima, pour alléger la facture énergétique, ce qui est vital pour le Japon qui n'a aucune ressource première. Ensuite, il a prôné une dérégulation des marchés et l'ouverture à la concurrence de monopoles afin de casser les rentes. Et enfin, une modernisation de certains secteurs à la traîne pour doper la productivité. Il cherche ainsi à générer le plus de main-d'œuvre disponible, ce qui est un gros problème dans le Japon vieillissant, pour l'affecter dans de nouveaux secteurs comme l'innovation, la santé ou l'énergie. Pour cela, il incite également le travail des femmes, des jeunes et des seniors. Il signe finalement de nombreux accords de libre-échange avec des pays partenaires du Japon pour doper ses exportations.
Oui, Quentin, mais le problème, c'est que pèsent encore de lourdes incertitudes sur les effets de cette dernière flèche de croissance, car si celle-ci échoue, la politique des Abenomics est condamnée à long terme à être inefficace. Pour l'instant, certains signes sont encourageants, comme la sortie de la déflation et, avec la dépréciation du yen, la reprise des exportations. Mais d'autres signes sont moins encourageants, comme la hausse de la TVA, qui a en fait bridé la croissance du pays. Donc, vous le voyez, les politiques monétaires non conventionnelles sont un aspect important de la relance et de la sortie de crise, mais elles ne sont pas un remède miracle et elles doivent s'accompagner de réformes de l'État. Et c'est ça qu'on voit avec l'exemple japonais. J'espère, amis transhistoriens, que nous ne vous avons pas dégoûté de l'économie et que l'on se retrouvera bientôt avec un nouveau numéro de Tina.